Bonjour à tous. Comme le titre de ce diaporama vous l'indique, j'ai voulu faire très pratico-pratique. Pourquoi ? Parce que très souvent, dès qu'on prononce les trois lettres DPC, on voit des boutons apparaître sur le revêtement cutané de nos interlocuteurs ou de violents acouphènes secouer leurs oreilles. Et quand on ajoute les deux lettres AN devant DPC, alors là, ça peut être chez certains en tout cas une réaction quasi anaphylactoïde. Il y a beaucoup de méconnaissance de ce qu'est le DPC, de ce que sont les instances, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet exposé de façon très pratique. Toutes les diapositives ont été intégrées dans le document PDF ou écrit que vous aurez à votre disposition, et c'était volontaire pour que vous ayez bien sûr toutes les indications sur le dispositif. Alors qu'est-ce que c'est que le DPC ? Le DPC vient dans la continuité d'une longue démarche qui s'étale déjà depuis très longtemps, mais qui s'est formalisée à partir de 1995-1996 sous la dénomination initiale de FMC pour formation médicale continue, qui est une obligation déontologique inscrite à l'article 11 du code de déontologie, qui est une obligation légale inscrite dans la loi du 24, enfin plutôt de l'ordonnance du 24 avril 1996. Et qui initialement était géré par des organismes de FMC pour les libéraux et par les établissements de santé pour les salariés. Ceci a évolué ensuite vers un dispositif un petit peu plus formalisé avec une accréditation des actions de formation médicale continue par les organismes reconnus par des conseils nationaux de formation médicale continue, et ceci s'est étalé sur la période 2004-2010. Il y avait trois CFMC, un pour les hospitaliers, un pour les salariés, un pour les libéraux, et Dominique Bertrand, ici présent, était président de l'un de ces trois CNFMC. On s'est aperçu ensuite que manquait quelque peu dans le dispositif de formation médicale continue, qui était en fait des actions souvent un peu passives de formation, un aspect un peu plus dynamique ou réflexif sur ces pratiques professionnelles, d'où l'idée d'introduire dans le dispositif une part d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc le terme d'EPP est apparu dans la loi du 13 août 2004. Évaluation des pratiques professionnelles qui était gérée, elle, par la Haute Autorité de Santé. Cette disparité entre l'évaluation des actions d'EPP et des actions de FMC a rendu le système FMC-EPP d'emblée un peu bancal et explique vraisemblablement qu'il n'ait jamais réellement bien fonctionné ou fonctionné du tout. D'où l'idée de fusionner les deux dans un dispositif commun qui alors s'est appelé développement professionnel continu, le développement professionnel continu. C'était la première version, elle a été instaurée par l'article 59 de la loi HPST en 2009. Et donc l'idée c'était de coupler évaluation des pratiques professionnelles et FMC dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins. L'idée étant d'avoir pour chaque action ou programme une analyse, une évaluation de ces pratiques professionnelles, à partir des lacunes identifiées dans ces pratiques professionnelles personnelles, choisir des actions de formation pour combler ces lacunes et refaire un tour d'évaluation de ces pratiques pour voir si la formation avait amélioré ces pratiques professionnelles. Donc l'intention était vraiment excellente et ce système a fonctionné. Géré par l'organisme gestionnaire du DPC pour les libéraux et par un certain nombre d'OPCA, c'est-à-dire organismes paritaires, collecteur agréé pour les salariés, avec des difficultés là aussi diverses pour la mise en place des programmes, le financement, le fonctionnement et aussi le contrôle. D'où l'idée d'instaurer un nouveau DPC. Vous le voyez que c'est encore une nouvelle loi de santé qui instaure ce nouveau DPC. Espérons que chaque loi de santé ne modifiera pas profondément le système et qu'on arrivera enfin à un moment à une certaine stabilisation. Le nouveau DPC est effectif depuis le 1er janvier 2013 et, fait important, il est dédié à tous les professionnels de santé, comme l'était d'ailleurs le précédent dispositif de DPC. Donc pas seulement les médecins, mais l'ensemble des professions de santé. C'est un dispositif de formation réglementé avec une obligation individuelle triennale de satisfaire à cette obligation et il remplace les dispositifs conventionnels de formation. Il comporte trois volets. Ce qu'on appelle les actions cognitives, qui sont ni plus ni moins que les anciennes actions de FMC, de formation médicale continue. Donc l'objectif est un approfondissement des connaissances. Il comporte aussi des actions d'analyse des pratiques, avec une réflexion sur la démarche et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective. C'est ni plus ni moins que ce qu'on appelait auparavant l'EPP ou l'analyse des pratiques professionnelles. Et puis est ajouté un volet spécifique, gestion des risques, en particulier pour les professions médicales comportant des risques, chirurgicales, radiologie interventionnelle et autres, qui consiste à identifier, évaluer, prioriser des risques relatifs aux activités d'un métier ou d'une organisation et de les corriger. Pourquoi faire le DPC ? Eh bien, tout simplement pour remplir une obligation triennale, c'est inscrit dans la loi, c'est obligatoire, et donc le DPC dit obligatoire remplit cette fonction. On va voir que ce DPC dit obligatoire est une obligation relativement douce, légère, puisqu'elle consiste à valider deux actions de DPC dans le cadre d'orientation prioritaire nationale tous les trois ans. Donc, pourquoi faire ? C'est aussi pour évaluer ces pratiques et les améliorer, et pour améliorer aussi l'aspect gestion des risques liés aux pratiques professionnelles, et bien sûr, avec aussi un objectif de maintien et d'actualisation des connaissances et des compétences, en prenant en compte les priorités de santé publique. Et l'objectif, bien sûr, de l'ensemble de ce dispositif, comme des précédents d'ailleurs, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins que nous devons à nos patients. Alors, ce qui est important, c'est considérant que le DPC obligatoire est une obligation relativement légère, comme je vous l'ai dit, il est difficile de se contenter de ce simple dispositif pour assurer une sécurité, une qualité des soins parfaitement optimale sur cette base-là. Donc, il a été prévu que le DPC obligatoire s'inscrit dans ce qu'on appelle un parcours professionnel, qui comporte des actions beaucoup plus larges, qui recouvrent l'ensemble du spectre des actions de formation ou d'analyse des pratiques que nous faisons déjà depuis très longtemps, mais qui seront plus ou moins formalisées par nos conseils nationaux professionnels ou CNP, dont l'existence a été officialisée très récemment par un décret du Premier ministre, pour chacune des spécialités médicales. Donc chaque CNP de chaque spécialité médicale définira le parcours professionnel entre guillemets type de ces spécialistes, ces spécialités médicales étant rassemblées dans la Fédération des spécialités médicales et le Collège de la médecine générale pour les généralistes. Ce qui est aussi important quand on se place dans une dynamique et dans le futur de la prochaine loi de santé, c'est que ce parcours professionnel sera considéré comme l'axe central de la recertification des médecins. La recertification des médecins est un sujet dont on parle aussi depuis des années, mais qui devient une réalité puisque une mission conduite par le doyen Usan a remis son rapport définitif et ses conclusions en novembre 2018 à la ministre de la Santé publique et à la ministre de l'enseignement supérieur pour mettre en place un dispositif qui sera appelé non pas recertification mais probablement certification et valorisation périodique avec un cycle sexennal, c'est-à-dire de validation de ses connaissances et compétences tous les 6 ans et ceci devrait être inscrit dans le projet de loi Ma Santé 2022 à venir au printemps 2020. Cette certification et validation, valorisation périodique pardon, sera dans la continuité du diplôme initial, c'est-à-dire du DES, et donc sera rendue obligatoire pour tous les médecins entrant dans leur carrière professionnelle à la sortie de leur DES. devra bien sûr aussi tenir compte d'évolutions spécifiques de la carrière des uns ou des autres au fil des années, de manière à ce que la démarche soit adaptée à la pratique. Le contenu de cette certification et valorisation périodique comportera bien sûr le DPC ou l'accréditation, mais aussi une dimension de perfectionnement des connaissances, c'est-à-dire de formation continue, et une dimension d'évaluation ou d'auto-évaluation des pratiques, c'est-à-dire de l'ancienne EPP. Les actions étant proposées par les conseils nationaux professionnels avec des éléments incontournables, formation, DPC, accréditation, participation à des registres de pratiques professionnelles, mais aussi éventuellement à d'autres éléments plus adaptés à la pratique de chacun, par exemple pour les universitaires, l'accueil et la formation d'étudiants, les activités de recherche, et puis d'autres activités éventuellement adaptées à des pratiques, par exemple la maîtrise de stage pour les médecins libéraux. Ce contenu devra s'appuyer sur des référentiels métiers et compétences devraient disposer d'une architecture et d'une méthodologie commune, et donc la Fédération des spécialités médicales réfléchit à cette architecture commune, mais qui pourront bien sûr ensuite être déclinées par spécialité. Et beaucoup de spécialités avaient déjà en 2010-2011 élaboré des référentiels de pratique qui devront être remis sur le chantier et actualisés. Voilà à quoi pourra ressembler le parcours professionnel avec, si on prend un objectif un peu architectural, les briques du parcours professionnel. C'est une façon de présenter les choses qui est assez chère à la Fédération des spécialités médicales et à son comité parcours professionnel et développement professionnel continu. Donc le parcours professionnel comporte d'une part sur le côté gauche les trois briques que j'ai déjà décrites de dimension cognitive, c'est-à-dire de formation continue, d'évaluation des pratiques et puis de sécurité de gestion des risques, mais aussi des aspects plus relationnels et santé publique, on va dire, qui sont du côté droit, donc les relations avec le patient, avec la personnalisation des soins, l'information des patients, des familles, des aidants, la communication, mais aussi le travail en équipe au sein notamment de structures médicales de groupe, et puis aussi l'aspect santé, c'est-à-dire la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, la gestion des conflits et l'implication qu'a le médecin dans sa propre santé pour pouvoir soigner correctement ses patients. Donc tous ces aspects-là devraient être intégrés dans le parcours de recertification ou de certification et valorisation. Pour terminer, quelques mots sur l'Agence nationale du DPC. C'est donc une agence nationale qui a la forme juridique d'un groupement d'intérêt public ou GIP, constitué donc paritairement entre l'État et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Il émane directement de l'article 114 de la loi de modernisation du système de santé, et c'est l'ANDPC qui assure le pilotage du DPC pour l'ensemble des professionnels de santé hospitaliers, autres salariés et libéraux de France. Les missions, c'est l'évaluation des organismes, c'est-à-dire des organismes qui soumettent des actions de développement professionnel continu, pour en assurer la garantie, une garantie de qualité scientifique et pédagogique, et ça c'est le rôle de la commission scientifique indépendante dont Jean-Michel Klein est maintenant le président et à laquelle j'avais participé dans sa première version entre 2012 et 2015, je crois. Mais aussi d'essayer de mesurer l'impact du dispositif sur l'amélioration et sur et l'efficience du dispositif, ce qui est un objectif important, louable, mais compliqué à mettre en œuvre. D'assurer aussi la promotion du dispositif de DPC en informant les professionnels de santé, ce qu'on fait ici, les organismes et les employeurs, et puis bien sûr de participer au financement des actions de DPC pour les professionnels de santé pouvant être pris en charge par l'agence du DPC. La prise en charge financière des actions et programmes de DPC concerne des actions de DPC répondant aux orientations prioritaires pluriannuelles pour les professionnels de santé libéraux ou exerçant en centre de santé conventionné, et les médecins des établissements de santé ou établissements médico-sociaux. Donc vous voyez que les médecins hospitaliers ou hospitalo-universitaires ne rentrent pas dans ce cadre des actions financées et indemnisées par l'Agence nationale du DPC. Pour terminer, et puis pour introduire un petit peu le cœur de la discussion de cet atelier, des questions qui se posent, c'est la place de l'université dans ce dispositif de DPC. Il y a à l'évidence une forte légitimité de l'université dans la transmission du savoir. Nous sommes là pour ça et nous essayons de le faire tous le mieux possible. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ce DPC s'inscrit vraiment maintenant dans une transition de la formation médicale initiale vers le maintien des connaissances et des compétences tout au long de la vie professionnelle. Donc ça vient vraiment dans la continuité de la formation médicale initiale assurée par l'université. Néanmoins, il y a toujours des questions qui se posent et des difficultés de positionnement de l'université dans le dispositif initial du DPC. Donc on est là pour en parler et essayer de résoudre certaines de ces questions. Là aussi, pour rentrer dans le cœur du sujet, le contenu scientifique produit par les structures de FMC et de DPC des universités doit être reconnu et valorisé, d'où le titre un peu baroque de notre atelier, comment DPCiser les diplômes universitaires et interuniversitaires qui sont une production scientifique et pédagogique incontestablement de très haute valeur, mais qui doivent être adaptés pour pouvoir s'inscrire dans ce dispositif, et ça peut se faire, et certains l'ont fait et le font, donc on doit continuer dans cette direction. Je vous remercie.
Merci. Je voudrais remercier Monsieur le Doyen de son discours et des valeurs qu'il attache à la formation continue et l'engagement qu'il a toujours manifesté. Je voudrais faire une précision vis-à-vis de Mme Paquet. Je ne suis pas professeur, je suis docteur et je respecte énormément la hiérarchie universitaire qui m'a beaucoup appris et auquel je suis très attaché. Donc je n'usurperai pas un titre que je n'ai pas. Après les grands discours qu'on a entendus sur la valeur, sur l'éthique, sur l'engagement, sur le respect du patient, sur l'évolution de nos connaissances, je vais vous ramener dans la dure réalité du quotidien, c'est-à-dire l'usine à gaz du DPC, usine à gaz qui n'a pas que des défauts, mais qui s'est fait prendre à certains moules, c'est de vouloir tout faire pour tout le monde de la même façon. La spécificité du médecin n'est pas forcément celle de l'infirmière ou du paramédical, et à force de vouloir faire large, on a fait compliqué en oubliant l'essentiel. La première génération de l'agence, dont Philippe faisait partie de la CSI, la première génération de l'agence n'évaluait pas les actions. Donc on présentait des organismes et on présentait un appartement témoin, c'est-à-dire une formation de base. Voilà, merci. Une formation de base qui servait de test. Et pendant ce temps-là, pendant les 3 ans qui ont suivi, n'importe qui déposait n'importe quoi. Et on a abouti évidemment à une faillite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent pour financer en fin d'année. Fort de cela, on a eu une deuxième mouture où on a continué à évaluer les organismes, mais on a aussi évalué toutes les actions. On avait pris une habitude dans le temps ancien, c'est qu'il fallait tout déposer dans les 6 premiers mois parce qu'après, il n'y avait plus d'argent pour la formation. Donc ça a amené là aussi une espèce de course à l'échalote pour avoir un maximum d'actions déposées et la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Comme Philippe l'a expliqué, le DPC, c'est une opportunité scientifique remarquable. C'est quelque chose qui est entre nos mains et qui est indispensable au respect qu'on doit aux patients et à l'évolution de nos connaissances. Donc dans le DPC, il y a une partie université, je dirais connaissance, et il y a une partie exercice, expérience. Et c'est le mélange des deux qui donne la valeur de l'amélioration des pratiques qu'on veut apporter au niveau de ces actions. Donc, nous, ce qu'on a constaté en CSI, je préside la CSI médecin, qui comprend autant de généralistes, de spécialistes de médecine générale que de spécialistes autres que la médecine générale. Ce qu'on constate, c'est que plus la valeur ou la qualité ou la connaissance du rédacteur, du concepteur, voire des experts, est importante, moins l'action correspond à la grille administrative qui nous permet de les valider. Donc on a un phénomène de cisaillement dans lequel les organismes financiers se sont introduits très facilement en correspondant parfaitement à la raquette, à la maquette administrative, pardon. C'est même du racket financier. Donc ça permet à des organismes, certains, il y en a un qui représente 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand on analyse les actions, administrativement parfait, l'organisme correspond aux souhaits administratifs. Quand on voit la formation sur le plan scientifique, ça semble être parfait. Sur le plan pédagogique, c'est parfait. Service rendu d'amélioration des pratiques médicales, zéro. Donc tous ces organismes ont proliféré au sein de l'agence. Ils ont du personnel, donc c'est des structures purement financières. La question maintenant, c'est de les, entre guillemets, pas détruire, mais de les remettre à leur place, avec malheureusement des conséquences sociales pour les personnels qui ont été embauchés dans ces structures. Donc il y a des responsabilités. Moi, président de la CSI, comme dirait l'autre, je n'ai qu'un pouvoir consultatif. L'administratif, c'est l'agence. Madame Michèle Lenoir-Salfati, directrice de l'agence, se donne corps et bien pour essayer de faire, enfin, je ne dis pas de sauver la face, mais de faire en sorte qu'avec l'argent qui nous est attribué, ça se passe le mieux possible. Juste en petit aparté, on en a parlé tout à l'heure, le week-end dernier, un organisme agréé a inscrit 17 000 médecins généralistes dans la nuit de vendredi à samedi, en piratant sans doute les RPPS quelque part. Donc ce n'est pas une inscription financière, c'est une pré-inscription, mais quand même chaque médecin a reçu un SMS en lui disant « Vous vous êtes inscrit à une formation, veuillez valider votre formation » et s'il valide, ça débite l'argent de leur compte et de l'agence. Tout ça pour vous dire qu'on est face au meilleur et au pire, comme d'habitude en France, et qu'on a à piloter une usine à gaz qui aurait besoin d'évoluer. Je ne désespère pas qu'on y arrive en rééquilibrant le pouvoir médical au sein de l'agence qui est actuellement uniquement un pouvoir administratif. Donc là, moi, je suis là pour vous dire on a besoin de vous. C'est-à-dire qu'on a besoin que les universités fassent une contre-offensive face au déversement des organismes financiers. Je rencontrais quelqu'un du ministère hier à côté de Necker, on était devant chez Nicolas et je lui disais « Nicolas peut être un organisme agréé de formation médicale ». C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Donc il faut absolument, on a besoin de vous et on a besoin que vous nous poussiez au niveau de la CSI à rendre positives vos actions, à les valider positivement. Donc là, c'est un peu un travail dirigé. Il faut créer votre organisme agréé, donc il faut déjà correspondre à l'administratif. Il faut respecter les objectifs prioritaires de santé et les publics cibles. Ce sont des mots, mais c'est important. L'agence contrôle énormément, ce qui parfois nous choque. Je parlais, quand on a une formation sur l'obésité, par exemple, l'agence supprime les gastro-entérologues parce qu'elle considère que ce n'est pas un public cible. Donc on a des caricatures comme ça qui sont quand même préoccupantes. Bien sûr, si ça vous arrive, téléphonez-nous, parce que nous, on intervient au niveau de l'agence et ça passe tout de suite. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, vous pouvez avoir nos coordonnées. Ce n'est pas du délit d'initié, ça permet simplement de faire respecter certaines valeurs médicales face à une administration un peu dure et obscure. Il faut flécher les faces présentielles DPCisables quand vous êtes dans un DU. DU, c'est une certaine durée, c'est une certaine pédagogie, c'est aussi une compétence qui est acquise. Quand on dit qu'on va faire du DPC dans le DU, on a besoin de combiner les deux maquettes, la maquette de l'université et la maquette de l'agence du DPC. Comme l'a dit Philippe, la durée d'un DPC, c'est vous avez un crédit de 21 heures. Donc il faut peut-être les utiliser complètement, peut-être en utiliser que 15, ça c'est à vous de voir. Mais il faut flécher dans votre DU, quelque chose qui est vraiment identifié, DPC, de façon à ce qu'il y ait des participants qui soient dans le cursus à la fois du DU, puis d'autres qui soient dans le cursus DPC. Ça a une action, je vous en reparlerai tout à l'heure, enfin ça a une complication, c'est que les règles du DPC ne sont pas totalement compatibles avec les règles du DU. À savoir, par exemple, que dans une salle comme ici, si vous faites un DU, théoriquement, si on fait du DPC, tous ceux qui font du DPC doivent être dans la salle à côté parce qu'ils ne doivent pas être combinés avec les autres. vous inquiétez pas, on en a parlé avec Édouard Couty, comité d'éthique, je l'ai saisi sur le problème, on va avoir rapidement des réponses. Je pense qu'il y aura une dérogation. Mais pour le moment, essayez de respecter, c'est-à-dire en principe, il faut les deux. C'est en fait pas très compliqué si vous avez une vidéoprojection. Il suffit de transférer la vidéoprojection sur la salle à côté qui est en DU et pas en DPC. Mais bon, vous pourrez poser des questions là-dessus. Il y a une durée minimum de 3 heures consécutives. Il n'est pas question que les thèmes DPCisés dans le DU n'aient pas de sens ni scientifique ou pédagogique. Il faut trouver une espèce d'unité. Ce n'est pas une liste à la Prévert. Et puis, il faut bien adapter le choix de la méthode, c'est-à-dire essentiellement formation continue et programme intégré. Je vous mets en garde actuellement, l'agence a dans le collimateur le programme intégré. Donc il requalifie en formation. Je peux vous... Grosso modo, l'origine de tout ça, c'est une origine financière uniquement. Donc ils ont dégradé un certain nombre financièrement un certain nombre de choses qui sont dans la formation continue. Donc ça arrange l'agence de dégrader les programmes intégrés vers de la formation continue. Mais là aussi, il faut faire de la résistance. Si vous notez quelque chose, vous nous téléphonez, on peut vous aider à modifier les textes. Quand vous déclarez sur le site de l'agence DPC une formation, une action, il faut tout préparer en PDF. C'est-à-dire qu'il faut préparer à la fois le support pédagogique, on y reviendra, le déroulé détaillé, les questionnaires d'analyse des pratiques ou d'évaluation des pratiques et le questionnaire donc de mesure d'impact à la fin, y compris le questionnaire de satisfaction, puisque le participant peut, doit apprécier, évaluer la qualité de la formation qu'il a reçue. On a simplifié l'agence. Ça vous paraît bizarre, mais c'est vrai quand même, il y a un effort de simplification. Fort de l'expérience de l'année précédente, on a découpé le dépôt d'une action en deux volets. Volet 1, c'est le volet administratif et grosso modo les objectifs et un peu le programme. Le concepteur, son CV, sa DPI, ça c'est le volet 1. Il y a un certain nombre d'organismes qui ne seront pas contrôlés en CSI. Il y a donc un échantillonnage, comme on dit, donc un tirage au sort d'un certain, pour des motifs qui ne sont pas forcément connus. Et ces actions, elles, qui ont été déposées volet 1, vont passer en CSI. Et à ce moment-là, l'agence vous demande de communiquer l'intégralité du support pédagogique, du déroulé détaillé, des objectifs spécifiques et généraux, la bibliographie, enfin tout ça doit être à ce moment-là déposé dans les 15 jours. Après, ça passe en CSI et là, on évalue. Donc, nous, on a nos grilles et on évalue la correspondance des orientations, du public, la qualité scientifique, la véracité des messages qui sont passés. On voit des pratiques non conventionnelles. J'ai eu la semaine dernière à analyser la méditation en pleine conscience. On a un organisme qui était sur l'addictologie où c'était plutôt une émulation à la drogue. Donc tout ça, ils cherchent à infiltrer l'agence de façon à avoir une reconnaissance officielle de l'État finalement et s'en vanter après en disant nos formations ont été validées par l'Agence nationale du DPC. Donc à la fois Michel Lenoir-Salfati, Christiane Chevillard sont extrêmement vigilantes. À la fois nous en CSI, on a une espèce de communauté médicale qui est sans doute identique à la vôtre, avec vraiment des compétences assez étonnantes, d'origines différentes. Il y a des généralistes qui sont très sur la pédagogie. Il y a des représentants des cardios, des ORL, des radiologues, avec des connaissances du terrain, des oncologues de toutes origines. Et vraiment, nos discussions sont saines, objectives et valorisantes pour les missions qui nous sont confiées. Bien sûr que dans une journée de DPC, de contrôle, enfin de CSI, on voit 85-87 actions, donc c'est épuisant sur la journée, et on ne fait ça qu'une fois par mois. Sachez qu'il y a quand même 2000 actions déposées tous les mois sur l'agence du DPC, dont une bonne partie n'a rien à faire là-dedans, mais elle passe au travers des mailles du filet, puisqu'elle ne passe pas en CSI. Donc, pour confirmer ce que je vous ai dit, donc les critères, c'est la conformité des actions, c'est le respect du cadre réglementaire, c'est le respect du périmètre du DPC et c'est l'adéquation avec la thématique. Si vous faites un titre, on a des titres avec des sigles, donc sûrement que celui qui l'a conçu, il sait ce que c'est. Nous, on va chercher sur Internet pour voir ce que c'est. Donc, soyez clair, soyez cohérent, enfin, en fait, soyez naturel. Mais il faut remplir toutes les cases. Quand on voit un dossier volet 2 qu'on ouvre, nous, sur informatique, on a accès à la base. Quand on voit que rien n'est rempli, on vire. On vous demande de le représenter et c'est compliqué, c'est décevant pour vous. Donc, les cases vides, les questions qui sont posées, il faut remplir tout. Objectif détaillé, c'est pas très compliqué en fait. Objectif généraux, justification de l'action. Il faut vous lâcher, entre guillemets, il faut remplir. On n'est pas si dur que ça. Simplement, on a des grilles, et ces grilles, qui ne sont pas des grilles de notation, nous permettent d'évaluer quand même assez sainement les dossiers. Mais quand il n'y a rien, ben, il n'y a rien, même si c'est très bon, ou on se dit c'est quand même quelque chose, c'est dommage. Et je vous répète que ce qu'on voit des universités, c'est parfois ça. C'est-à-dire qu'on interroge l'organisme, on dit « oui, mais c'est le professeur, vous savez, il a autre chose à faire, il ne peut pas répondre ». Ben nous, il ne peut pas répondre, mais nous, on ne va pas répondre. Le budget de l'agence, c'est 90 millions d'euros, c'est de l'argent public. On est extrêmement attaché à ce que l'argent dépensé serve à quelque chose. Donc le rôle, la valeur de la CSI, son rôle, son éthique, c'est ça, hein. L'évaluation administrative, donc là je parle un peu trop, mais l'évaluation administrative, c'est soit conforme, soit suspendu, soit un rejet. Conforme, vous avez satisfait à toutes les cases du volet 1. Suspendu, bah, il y a quelque chose dedans qui manque. L'agence, sur le plan administratif, c'est-à-dire que nous, on n'est pas au courant, va vous demander des ajustements ou des compléments d'information. Rejet, c'est en général que ce n'est pas dans les orientations prioritaires, que le public cible n'est pas correct, ou que l'agence a détecté une pratique qu'on appelle non conventionnelle. On a, je vous dis, il n'y a pas que la méditation en pleine conscience. On a beaucoup de choses sur l'hypnose qui ne sont pas toujours faciles à classer. Certaines choses sont acceptées par l'agence, d'autres ne le sont pas. Donc soyez vraiment proche de la grille à tous les niveaux de votre déclaration. Au niveau du volet 2, c'est quand vous avez été donc échantillonné, tiré au sort, délai de 15 jours pour répondre, pour compléter les informations. Alors, nos attentes à la CSI, c'est ça qu'on a envie de vous dire. Vous aurez le PowerPoint, apprenez-le par cœur, entre guillemets. Les références bibliographiques, il faut qu'elles soient en rapport avec le thème, il faut qu'elles soient récentes et il faut qu'elles émanent d'organes qui sont quand même réputés. Donc nous, on a certains amours pour les universitaires, pour les référentiels des spécialités, pour les référentiels HAS. Donc s'il y en a, utilisez-les et mettez-les en tête de gondole, on en a besoin. Donc c'est ce que vous rappelle cette diapositive. Justification de la méthode et du format. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la méthode. Il y a 19 méthodes HAS. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la méthode que vous utilisez et l'objectif que vous poursuivez. Donc tout ça, ça doit être... Et on y attache de l'importance. Hein. On a les médecins généralistes notamment qui nous aident beaucoup dans ce domaine-là, qui ont une grosse formation à la pédagogie et qui disent « cette méthode-là, elle n'est pas adaptée pour faire passer telle information ». Donc il y a, à la CSI, il y a une vraie évaluation donc tout à fait performante de mon point de vue, mais on est parfois déçu parce qu'effectivement, on est obligé de refuser une action et on sait très bien les conséquences que ça peut avoir, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, l'évaluation de l'agence a pris beaucoup de retard et que des actions qui vont être passées dans une manifestation, je dirais le 15 avril, sont pas forcément à l'heure actuelle validée par l'agence parce qu'elle a un retard considérable. Elles ne sont que trois à éplucher jour et nuit toutes les actions. Donc je les préviens que c'est extrêmement dangereux, mais actuellement on n'a pas d'autres ressources. Donc là vous avez les méthodes et modalités de DPC sur lesquelles on a beaucoup travaillé grâce à Philippe Orcel et Olivier Gouéo-Brissonnière et Francis Dujaric. Vous devez l'apprendre par cœur, c'est notre bible. Donc, c'est vraiment ça qui vraiment fait référence. On essaye de faire évoluer ce texte parce que les méthodes pédagogiques ont évolué. Comme disait Patrick, les MOOC arrivent, la simulation a besoin d'être un petit peu rédigée différemment, mais c'est vraiment notre Bible, hein. Donc, toujours dans nos attentes, les documents pédagogiques, vous nous répondez facilement, écoutez, la formation, c'est dans un mois, le concepteur, les experts qui vont intervenir n'ont pas répondu, ils n'ont pas le temps, vous savez, ils font ça la veille et tout. On a besoin, nous, quand même, de quelque chose. On a besoin des invariants, des messages qui vont être diffusés, c'est-à-dire les supports scientifiques qui vont servir à constituer le support pédagogique diffusé en session. Donc, il nous faut des éléments et on est vigilant là-dessus parce qu'on est conscient, comme je vous disais tout à l'heure, des conséquences financières que ça a sur un système qui est quand même insuffisamment financé. Donc, est-ce que vous faites une formation en présentiel? Est-ce qu'il y a de la simulation? Comment est-ce que nous, on va évaluer la simulation? Il nous faut le scénario. On rêve, mais bon, ce n'est pas toujours facile d'avoir l'accès à ces supports que vous utilisez en numérique. Il nous faut le scénario, il nous faut des éléments pour nous faire comprendre que derrière, il y a un vrai message et il y a une vraie compétence et que le virtuel n'est pas virtuel. Pour nous, il faut qu'il ait une concrétisation administrative. Donc, ça dépend de la méthode que vous utilisez, mais n'oubliez pas de nous donner les détails sur ce que vous faites passer et ce que vous utilisez. Toujours dans les attentes de la CSI, les modalités d'évaluation de l'action. Donc, vous avez tout, hein, je ne vais pas tout vous lire, mais ce sont des choses qui sont indispensables et qu'on va réclamer et qu'on va aller éplucher. Donc, nous, on va ouvrir toutes les diapos. Alors, je vous disais, il y en a qui ne remplissent pas des cases, il y en a qui les remplissent trop. Sur la méditation en pleine conscience, il y avait 400 diapos. Je me suis tapé les 400 diapos parce que c'est mon rôle. Donc, on fait ça le dimanche soir en général. Donc, n'en mettez pas trop parce que faut penser qu'on a le droit de respirer. Mais pas du tout, c'est pas bien. Donc, faut la juste mesure comme en toute chose. Les intervenants, attention aux conflits d'intérêts. Bon, je pense que dans les universités, il n'y a pas de souci. Mais on a des concepteurs qui sont les seuls experts des sessions qui seront développées. Ça, on n'aime pas. Il faut que les intervenants soient souvent correspondants au public et correspondants au thème. C'est-à-dire que si on est sur la médecine générale et qu'il y a un rhumatologue, il y a un sujet de rhumatologie, il faut qu'il y ait dans les experts un rhumatologue, bien sûr, et un généraliste, de façon à montrer qu'il y a un échange entre les experts et que ce n'est pas les grands spécialistes de la spécialité qui ont le pouvoir sur un médecin de terrain. Il faut donc qu'il y ait un échange. Et si vous avez deux rhumatos pour un sujet rhumato dont le public est la médecine générale, nous, on bloque en disant changez votre expert, rajoutez-en un et tout. C'est important, ça paraît pas, mais c'est important. La CSI est très sensible. Alors, les actions réalisées en partenariat avec l'université, la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que le DU est un partenariat du DPC? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que le DU, c'est le DU, et que le DPC, c'est une zone fléchée à l'intérieur du DU. Sous-traitance, je vous le cite, il faut les déclarer. On a des formations coquilles vides, c'est-à-dire que c'est des supports qui sont faits notamment au niveau européen. Qui sont déployés sur la France, parfois avec des moyens financiers qui sont totalement industriels. Si vous avez des industriels liés à la formation, n'oubliez pas qu'on observe ça de très près. Il faut que la présence de l'industriel soit indispensable à la qualité de la prestation qui est fournie ou du message qui est passé. Donc, dans ces cas-là, c'est justifié. Si c'est juste un sponsoring entre guillemets déguisé, ça bloque, hein. Bon, les programmes intégrés, enfin, Philippe l'a expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, il faut bien les préciser et il faut préciser la zone qui est fléchée en DU. Un programme intégré, c'est au moins deux des trois actions marquées, formation continue, évaluation, gestion des risques. La description du programme, donc je l'ai déjà dit, c'est au format PDF, c'est vraiment le programme détaillé avec l'horaire, avec le contenu, avec les pièces jointes, les cas cliniques quand il y en a. On a vraiment besoin de la totalité. Voilà, c'est ce que je vous ai déjà dit. Les attentes de la CSI sur les méthodes, donc les méthodes HAS, je vous l'ai dit, c'est la Bible, ça doit être parfaitement, vous devez parfaitement les maîtriser, pardon. Les attentes sur le format, je vous dis, ce PowerPoint que je vous ai fait, ça reprend tout, ça doit vous servir à développer les actions. Là, je pense qu'on est plus sur le fait que c'est ouvert à vos questions et qu'on va répondre aux questions qui vous viennent à l'esprit. Le PP, gestion des risques. La gestion des risques dans le DU, je ne suis pas sûr que ça s'applique beaucoup. Par contre, l'évaluation des pratiques professionnelles, sûrement. Donc notre grille d'évaluation, elle reprend, là c'est pour vous montrer la lourdeur administrative du problème. Le libellé, il doit être clair, il doit être en adéquation avec le contenu. L'orientation prioritaire, c'est une pertinence de l'indexation à l'une des orientations de l'HAS. Donc vous voyez la rigidité. Ce texte n'aboutit pas à une notation en chiffres, on ne valorise pas en chiffres, c'est une évaluation. Je suis obligé de vous dire qu'elle est un peu psychologique, c'est-à-dire que c'est un ressenti qu'on a globalement sur la qualité de l'action qui nous est fournie. Gestion des risques, c'est pareil, vous avez là tous les. Ça reprend l'accréditation à l'HAS, hein, puisque finalement, enfin moi j'y suis pour l'ORL, c'est la grille alarme essentiellement. Donc l'évaluation des pratiques professionnelles, vous avez là aussi les objectifs, la faisabilité, la cohérence avec la méthode. Enfin, vous voyez qu'on a quand même, on retourne un peu l'action dans tous les sens de façon à essayer de voir qu'elle correspond exactement aux critères qui sont DPCisables. Pour ce qui est du DU/DIU, il faut que vous sélectionniez le cadre horaire, c'est-à-dire faut définir le nombre d'heures qui sont transformées en DPC. Il faut définir le scientifique, qu'il y ait une cohérence, que le sujet appartienne aux orientations prioritaires. Il faut définir la pédagogie, donc la pédagogie du DU, au moins pendant cette période-là, doit s'adapter totalement aux méthodes pédagogiques décrites par l'HAS. Et il faut sanctuariser ça en DPC. Donc le mot sanctuariser est important. Actuellement, ça doit être une zone avec des participants qui sont isolés des autres, parce que la pédagogie du DPC et du DU n'est pas forcément la même. Donc créer donc un vrai DPC dans le DU. Respecter les règles et les cadres définis par le comité d'éthique de l'agence. Les zones d'ombre, je vous en ai parlé tout à l'heure. La salle du DPC doit-elle être réservée aux seuls médecins réalisant une action de DPC, comme précisé pour les congrès? Actuellement, oui. Un DU apporte une compétence. Enfin, ça, c'est une question que j'ai à l'esprit. Un DU apporte une compétence. Un DPC apporte une qualité. Donc la distinction sera-t-elle bien comprise par les participants? Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de médecins qui vont dire: j'ai fait le DU, bon, en ORL par exemple, sur le sommeil. Non, tu n'as pas fait le DU sur le sommeil, tu as fait un DPC sur le sommeil. Et comme moi, je ne suis pas universitaire, il y a chacun à sa place. Et donc, d'un côté, ça peut être une bonne chose, ça peut faire la promotion des DU au niveau des médecins libéraux. Ça peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire j'ai fait le DPC, ça suffit pour faire croire que j'ai fait le DU. Donc je pense qu'il faudra être très attentif là-dessus. Et puis un sujet qui concerne surtout l'agence et Michel Lenoir-Salfati, le financement du DU par l'université, le financement du DPC par l'agence du DPC, est-ce qu'il y a un double financement sur une partie de temps de la formation? Je pense qu'il faut se calmer, on n'est pas chez McDo, donc on a quand même une certaine valeur universitaire avec une éthique. Et s'il y a double financement sur quelques heures, ça ne doit pas aller chercher bien loin, et ce n'est pas ça qui va faire effondrer ni l'université, ni l'Agence nationale du DPC. Bon, je ne sais pas comment on retourne en arrière, mais bon. La dernière diapo. Enfin, en conclusion, c'est vous dire que le format est un petit peu flou concernant les DPC, qu'on observe malheureusement qu'au niveau universitaire, les dossiers ne sont pas toujours parfaits, je suis désolé de vous le dire, et qu'on a vraiment besoin à la CSI médecin que l'université remonte le niveau par rapport aux organismes purement financiers qui se sont jetés sur le fromage. Voilà, donc merci Philippe. On évalue par binôme, un généraliste, un spécialiste. Le binôme n'est pas fixé, il est déterminé de façon aléatoire. On a quelques médecins extrêmement rigides, on a quelques médecins plutôt cool, et que la vérité est entre les deux, que vous devez... On ne peut rien faire sans la correspondance exacte à tout ce que je vous ai montré. Donc apprenez ça par cœur, entre guillemets. On peut vous faire des travaux dirigés, c'était un petit peu ce que je voulais faire là. Mais il faut absolument que l'université entraîne le DPC vers des valeurs qui sont un peu plus importantes que celles des simples organismes financiers. Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est ouvert aux questions. Donc, je pense qu'au moins pour Paris d'Hydro, ceux que je connais le plus, il faut vraiment poser toutes les questions que vous me posez habituellement. Alors nous, en local, on est organisé, en fait, on centralise les demandes de DPC. Donc c'est nous, avec Célia Cossio et Juliette Assouad, qui sont directrices adjointes et directrices de la formation continue, qui déposons les demandes de DPC. Donc moi, du coup, j'ai des questions. Mon impression, en fait, bien qu'on se contorsionne, on ne peut jamais faire entrer un DIU entier en DPC.
Sauf si le DU dure 21 heures.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc, ce qui n'est plus un DU, enfin, à mon avis, c'est 21 heures, comme l'a dit Philippe. Moi, je pense que la formation médicale, c'est 40 heures par an. Donc 21 heures, on est comique, entre guillemets. Donc un DU... Moi, j'ai épluché un certain nombre de DU avant de regarder pour la réunion d'aujourd'hui. Les DU, ils durent 100, 200 heures. Enfin, ouais, c'est
minimum 100 heures, hein, voilà, chez nous.
Et donc il faut dédier une zone. Je pense qu'il faut que vous créiez une journée. Parce qu'en plus, les heures doivent être contiguës. C'est-à-dire que ce n'est pas une heure le lundi du premier mois et deux heures le mardi et tout. Il faut que les heures soient contiguës. Je pense que c'est pas très difficile, en fait. Il faudrait qu'on travaille ensemble pour voir comment on peut vous aider à construire. Quand j'interviens en vous disant ça, je ne considère pas que je fais un délit d'initié. Et Michel Lenoir-Salfati est d'accord quand je lui en parle. La CSI est là pour élever le niveau des dossiers et la pertinence des dépenses de l'État face à l'amélioration des soins qui est indispensable. Donc plus on travaille ensemble, plus vous aurez de facilité à faire des DPC. Donc pour nous, c'est tout bénéfice. Enfin, je pense que c'est la qualité derrière qui est en jeu. Mais c'est vrai que 100 heures, on ne peut pas les prendre en DPC.
En fait, on a fait ça, hein, jusqu'à maintenant avec l'aide de Philippe. On a modularisé nos DU, on a déposé des modules, mais... Enfin, le DU pour l'instant, en tout cas, ça va probablement changer, mais c'est le moyen de formation continue le plus fréquent pour les médecins et les jeunes médecins. Donc il faudrait voir si on ne peut pas, pour les DU et pour que l'université prenne sa place dans le DPC, faire cette exception-là. Parce que du coup, quand on modularise un DIU, donc le coordonnateur a ses étudiants de DU, mais il a aussi après des gens qui viennent pour le DPC. Et comme ils ne peuvent pas être dans la même salle, ce que je n'avais pas compris, en tout cas sur le site, ça n'est pas gérable en fait. Donc il faudrait, alors c'est une proposition, mais je pense que le fait que l'université puisse prendre sa place dans le DPC avec une formation continue de qualité, puisque les DU sont vraiment travaillés, nous on contrôle la pédagogie, on met de l'innovation pédagogique, on met de l'international maintenant, ça serait vraiment une proposition qui renforcerait la place de l'université dans le DPC.
Lors de la dernière réunion du comité d'éthique avec Édouard Couty, on était sur le sujet des congrès, qui est pour nous dramatique. Actuellement, toute l'industrie pharmaceutique se retire des congrès et tout est transformé en DPC. C'est n'importe quoi. Donc on se fait pas mal d'ennemis, hein, on a besoin d'un gilet pare-balles, parce que là, il y a des organisateurs de congrès qui, pendant un an, ont fait ça tranquille en disant, y compris... J'en ai sur Marrakech, j'en ai sur Lisbonne, j'en ai sur Tel Aviv, on a l'île Maurice, on a, et tout ça passe en DPC actuellement. Donc c'est scandaleux. Donc là, Édouard Couty a rendu son verdict. Je l'ai saisi à la fin de la réunion pour les DPC au sein des DU, des IU, en lui disant, là, il faut une dérogation. Enfin, sur le plan universitaire, on ne risque rien. Enfin, c'est pas... Et donc, je pense que ça devrait arriver assez vite. Donc là, il est saisi de l'histoire, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un flou juridique, puisqu'on a agressé, entre guillemets, les congrès en interdisant des DPC où il y a 1000 personnes dans la salle. Enfin, il faut voir un peu le truc. Sachant que l'agence finance 900 euros à chaque fois. Donc, il y a des gâteaux faramineux. C'est pour ça qu'il y en a un qui a déclaré 17 000... Les enjeux sont énormes.
Donc, par exemple, si nous, DPCSU, on faisait une proposition d'intégrer les DU dans le DPC pour que, un, l'université prenne sa place, pour que, deux, on a un gage de qualité et d'innovation, voire d'internationalisation, ça pourrait être considéré ou c'est une perte de temps ?
Ça ne fera que répondre à nos espoirs. D'accord. Donc plus on a besoin de vous pour que vous poussiez un peu. Nous, on ne va pas dire que... Enfin, c'est évident qu'on ne va pas dire qu'on compare un DU avec un congrès. C'est autre chose. Et donc on est en fin de période. Et donc là, Michel est en train de faire le bilan. Elle sera renouvelée ou pas au mois d'octobre-novembre. Et donc dans ce qu'on a prévu, il y a ça. On a prévu de faire remonter le pouvoir médical, mais enfin là, c'est des discussions qu'on a entre nous. Moi, je lui demande un rééquilibration du pouvoir médical face au pouvoir administratif, avec une responsabilité du pouvoir médical. Elle l'entend. Donc, ça sera écrit pendant les propositions. La DGOS me répond que la loi, le dispositif peut évoluer. Donc, toutes ces propositions, c'est le moment de les faire. Donc, si vous pouvez écrire à Michel... voir Mathias Alberton, puisque c'est derrière, c'est lui qui est à la manette, hein. Ça ne fera que nous aider pour reprendre le contrôle sur des dérives purement financières.
Excusez-moi. Donc moi, je suis à l'Université Paris-Descartes, donc la nouvelle Université de Paris. Et donc, on a une autre stratégie que Paris 7. On va bientôt se mettre en correspondance.
En ménage.
Mais à Paris-Descartes, on a trois stratégies par rapport au DU. Soit le DU, en fait, on est parti du principe que nos DU, ils sont, les gens s'y inscrivent, mais ils ne sont pas DPC. Et donc, après, ils doivent aller à une officine de qualité moyenne pour aller valider leur DPC. Donc, une des stratégies, c'est juste chercher 3 heures, puisque un DPC, c'est au minimum 3 heures. 3 heures dans les 100, 150 heures, 200 heures, qui correspondent pile poil aux orientations. Vraiment à ce qui est demandé. Et ça, c'est la première stratégie, c'est déjà rendre nos DU DPC, mais juste par ce moment-là, parce que nous, je serais incapable de garantir que les déclarations de l'intérêt de mes 150 heures de formation seront dans la salle. Et ça, c'est une des obligations, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette lorgnette-là. Il y a aussi le DPC, donc on voulait rendre accessible, c'est-à-dire que des DU qui font 100 heures et qu'il y a des professionnels libéraux, des fois les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes qui ne peuvent pas se déplacer sur 150 heures, c'est leur donner aussi le cœur du DU en accès. Et donc là, on voulait faire des congrès. Donc si j'ai bien compris, ça, c'est pas possible. On doit les mettre à part.
Les congrès, il y a eu une telle dérive, oui, mais qu'actuellement, ce n'est pas impossible. Quand vous déclarez sur le volet, sur l'agence, sur le volet 2, il y a la question, est-ce que c'est un congrès ? Donc nous, on a insisté pour ça. À partir du moment où, si c'est dans un congrès, on va vous demander un certain nombre de choses.
Enfin, un congrès, j'entends un congrès universitaire. Hein. C'est un grand colloque, c'est sans congrès, sponsor.
C'est pas un symposium.
Voilà. Il y a congrès et congrès. Je veux dire, voilà, les congrès qui posent problème sont ceux où l'industrie pharmaceutique est présente. Enfin, l'industrie, les industriels de santé.
Et donc ça,
non, pas forcément.
Si on fait un gros séminaire où on a
là, 100
sponsors de cette journée, on a déclaré la journée, une journée du DU qui correspond aux orientations. Les apprenants du DU, ils sont invités à titre gracieux puisqu'ils ont déjà payé le DU. Et si on ouvre les inscriptions à des personnes extérieures, ça, c'est pas possible.
Deux réponses. La vente forcée est interdite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inscrire quelqu'un à un congrès pour aller faire son DPC dans le congrès. Donc ça, c'est le premier point. Pour le reste, il faut que les gens qui participent au DPC soient dans une salle indépendante par rapport à ceux qui sont simplement spectateurs. Donc, pour quelle raison ? Parce que l'agence ne veut pas payer pour des choses dont elle n'a pas la responsabilité ou le contrôle. Donc, c'est une question d'affichage financier. On a, alors là, je parle des ORL. Quand on a créé ORL des PC, on a dit on fait ça au sein du congrès de la SFORL. Porte-maillot, ça s'est terminé par des combats. Les gens voulaient rentrer de force, alors qu'en fait, on n'a pas le droit de les faire rentrer. Mais un médecin qui a payé le congrès, il considère qu'il doit avoir accès au DPC. Donc maintenant, on fait ça au Méridien, de l'autre côté du pouvoir Gouvion-Saint-Cyr. Et on est tranquille. Donc on ne fait pas du DPC dans les congrès, on fait du DPC à l'occasion des congrès. Et les mots sont importants. Donc le congrès va faire déplacer des médecins, ils vont prendre du temps, et dans ce temps, on va leur proposer quelque part, sur un module qui est différent d'un congrès. Un congrès, c'est des actions d'une heure, grosso modo. Là, c'est des actions de minimum 3 heures. Et l'autre obsession qu'a l'agence, parce que tout ça, c'est qu'on est dans un milieu ici respectable, la vraie vie, c'est autre chose. Vous avez tous les dîners, comme disait Philippe, tous les dîners de labo qui passent en DPC. Donc c'est des petits dîners, il y a une heure de DPC, il y a une heure de bouffe, ils déclarent 3 heures, comme on n'a pas le droit de contrôler, on ne peut pas aller sur site. Donc tout ça, ça passe dans le DPC. Les labos, ils n'ont pas le droit, mais il y a des organismes agréés qui sous-traitent.
C'est quand même pas très bien fait.
On demande le droit au déplacement sur site, surtout à l'île Maurice, pour aller voir ce qui se passe vraiment. Ah ben là, c'est le monde parfait. Il faut savoir que ça va jusqu'à 48 participants. Après, le forfait est dégradé. Donc, si vous inscrivez 300 au DPC, vous aurez un forfait moins favorable. Mais ça résout le problème administratif de, dans la salle, il n'y a que des gens qui font leur DPC. Mais
Et donc, la présence d'une personne qui aurait été acceptée, par exemple, par un patient expert qui serait accepté sur une session et qui n'a rien à voir avec le DPC.
Ça, c'est bon, ça, je pense que... Alors, on a discuté avec Édouard Couty, on lui a dit, mais l'expert, il arrive, il a ses internes. Parce que finalement, c'est une façon pour les étudiants de voir ce que c'est que la vraie vie. Puisqu'on travaille sur des cas cliniques, on est dans une pédagogie de réflexivité, de partage d'expérience. Le DPC, ce n'est pas la formation, c'est l'amélioration des pratiques, ou la modification des pratiques. Donc, c'est passionnant, en fait. Quand vous assistez à un DPC, j'y étais la semaine dernière... c'est vraiment, vous voyez pas le temps passer. Vous avez 6 heures de suite de DPC, vous sortez de là, tout le monde est ravi. Parce qu'on travaille sur des cas cliniques, on partage des expériences. Pour les experts, c'est épuisant, puisque les participants sont quasiment presque au même niveau. Donc, c'est pas un cours où il y a descendant, où il y a un qui parle et les autres qui prennent des notes. C'est tout le monde au même niveau. Et là, c'était sur le sommeil, il y avait 2 filles remarquables comme experts. Je peux vous dire que les ORL dans la salle et généralistes les ont triturés dans tous les sens. Oh. C'est vraiment, il faut être compétent. Donc c'est quand même fatigant au maximum. C'est ça qui est passionnant. Alors, c'est pour ça que je dis dans un DU, il faut qu'il y ait aussi la pédagogie du DPC. C'est-à-dire que c'est un changement de logiciel qui doit apparaître sur quelques heures, mais qui n'est pas forcément négatif pour l'ensemble des participants au DU. C'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une dérogation pour le DU. Et que dans la salle, il puisse y avoir un mélange entre participants et non-participants au DPC. Mais il faut le temps que ça se fasse. Mais on est confronté quand même à tout le côté détournement. Le système, il est administratif, quoi. C'est absolument scandaleux. Et si la CSI avait plus de poids, plus de responsabilité, puisqu'on est consultatif, je pense qu'on pourrait faire des économies au système et qu'on pourrait faire avancer le système vers quelque chose. Parce que, comme je disais à Michel, j'ai l'impression qu'on fait de la formation des années 60. C'est-à-dire qu'on est très bon sur le partage d'expériences autour d'une table, sur des participants qui sont présents, qui vont faire une pause et tout. Pendant ce temps-là, il y a le numérique, il y a la télétransmission, il y a les MOOC. Donc, il y a... À mon avis, on prend un retard considérable. Il va falloir faire évoluer la pédagogie vers le numérique. Donc, pour le moment, c'est un groupe de travail au sein de l'agence dont je fais partie. J'ai l'impression qu'on n'avance pas parce qu'il y a une peur là aussi. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse IP du participant ? Combien de temps il s'est connecté ? Est-ce que vraiment il était là ou est-ce qu'il dormait dans la salle à côté ? Non, ici, là, on est là. Mais tout,
je voudrais revenir sur un point que vous avez fait dans votre exposé. Vous avez dit qu'il y a 2000 actions de DPC qui sont déposées à l'agence tous les mois. Ouais. Et vous faites un échantillonnage de 80-85.
Donc, on le subit.
Les 1920 autres propositions, elles passent direct. Donc, vous allez retoquer et rejeter un petit pourcentage des 80 que vous avez expertisés, et tous les autres se sont engouffrés.
La question est excellente. On a des congrès. Donc, il y a une partie, ils mettent le congrès en DPC, en trouvant des thèmes, des unités pédagogiques, qui regroupent les heures pour faire minimum 3 heures. Il y a une partie des actions qui passent en CSI qui est refusée. Et il y a l'autre partie du même congrès qui ne passe pas en CSI et qui est validée. Donc, en général, on est de belles lettres un peu humoristiques en disant faudrait changer de métier. Donc, c'est ça que je ne supporte pas. Hein, c'est mon caractère. C'est ce que je dis à Michel. J'ai l'impression d'être le radar sur le bord de la route. C'est-à-dire que le distrait, on va le choper. Et celui qui est un professionnel, il freine avant, il accélère derrière. Donc, ça, je ne supporte pas. Donc, il faut arriver à trouver un moyen. Et je demande, moi, une veille numérique. C'est-à-dire que sur mon mail personnel, je reçois des tas d'informations qui sont totalement différentes de ce qui sont envoyées à l'agence du DPC. J'en ai chopé un, là, que j'ai reçu par courrier. C'est à Deauville, à l'hôtel Normandie, un week-end, sur l'hypnose. Ce qui est déclaré sur le site de l'agence, c'est une formation dans le 9-4. C'est pas tout à fait le Normandie. Mais comme on n'a pas de pouvoir de contrôle physique, ils peuvent nous raconter. En fait, les pourris nous racontent ce qu'ils veulent, une fois qu'ils ont compris. Et pendant ce temps-là, nous, on voit les universitaires qui sont dans la science, dans l'éthique, et qui se font bouler. C'est pour ça que nous, quand Patrick m'a dit faut intervenir, on est ravis. On attend qu'une chose, c'est que vous poussiez un petit peu pour dégager les autres. C'est vrai que Michel, elle commence à réagir et à tenir compte de ce qu'on dit. Donc il y aura des modifications, à mon avis, importantes en fin d'année, et avec modification du texte de loi. On est dans un module administratif soi-disant parfait. Il y a une possibilité de signalement. C'est vrai que celui qui avait sa SASU, là, c'était un organisme unipersonnel, un type qui est jeune, hein, 95. Il est né en 95, il a bien compris le système. Là, 17 000 actions, à 900 euros l'action, là, faisait jackpot. Là, c'est mieux qu'un footballeur. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit bien les trous dans la raquette qui arrivent. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné, il pourrait y en avoir d'autres. Parce que c'est quand même de l'argent public à un moment où le système de santé est quand même dans le collimateur et où l'argent public est quand même compté. 90 millions d'euros, c'est pas rien. Le premier organisme est à nous coûte entre guillemets 7 millions d'euros. Ce n'est pas un organisme universitaire. Non. Une université, ça va être à 100 000 euros maximum. Hein.
En fait, l'impression qu'on a quand on va sur le site déposer, c'est que le format demandé correspond à des petites structures réactives et pas à une grosse structure universitaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait comme Paris 5, Université de Paris, c'est-à-dire qu'on a modularisé les DU. Moi, je trouve ça un petit peu dommage de désintégrer certains modules d'un enseignement global. Par exemple, je pense à la rétinopathie. Il faut un très bon enseignement global sur la rétinopathie, donc on est obligé d'extraire. Alors moi, je n'ai pas extrait 3 heures, j'ai extrait 3 jours, un module entier. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit obligé de faire ça. Et finalement, le format qui est proposé correspond aux sociétés de DPC privées qui se sont montées et ne nous correspond pas du tout.
Je suis totalement d'accord, je partage totalement. Mais il faut voir aussi qu'il y a une guerre des tranchées entre les libéraux, puisque l'agence du DPC, c'est les libéraux. Moi, j'ai rêvé d'un guichet unique. J'ai pensé que quand on est passé de l'OG à l'AN DPC, on allait avoir un vrai guichet unique. Il y a toujours une guerre des tranchées financières, parce qu'il y a de l'argent derrière, entre les médecins libéraux, les centrales syndicales. Je ne sais pas s'il y a des syndicalistes ici. J'ai été président du syndicat des ORL. Donc les centrales syndicales qui, à mon avis, n'ont rien à faire dans le DPC. Et les universités qui se trouvent marginalisées. On a rendez-vous, je crois, lundi chez Datadoc à la NFH. Je crois que c'est important pour essayer, nous, de montrer qu'on peut travailler ensemble et que l'argent, c'est un truc, mais que nous, on a d'autres valeurs que l'argent et que l'université a une place. Alors, je sais que c'est un sujet tabou sur le quatrième cycle, que nous, en tant que libéraux, théoriquement, on refuse ce mot-là. Moi, je pense que la formation, elle est du premier jour de l'entrée à l'université jusqu'au jour de la case de retraite. Et donc tout ça, ça doit avoir une unité à la fois pédagogique, scientifique, numérique, et une, ça doit être une émulation. Il me semble que dans le conseil, enfin, au niveau de nos serments du Conseil de l'Ordre, que l'amélioration de nos pratiques s'est inscrite dans nos obligations déontologiques. Donc que ça soit payé en plus, c'est très bien. Que le médecin paye sa formation, moi ça ne me choque pas. Je pense que dans l'avenir, le médecin aura 20 heures financées parce qu'on ne peut pas financer plus et qu'il aura 20 heures à financer de sa poche. Et le problème, c'est qu'il va essayer de se faire financer ses 20 heures par l'industrie pharmaceutique. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon hein,
et ensuite, c'est un tarif standard, hein, si j'ai bien compris. Donc, si par exemple, une université, là, on l'a fait pour des formations qualifiantes, veut faire une formation qualifiante de simulation, c'est beaucoup plus cher. Si c'est de la simulation haute fidélité, c'est beaucoup plus cher. Donc même si ces médecins ont besoin d'être formés, parce que c'est le cas, que ce soit les libéraux, les hospitaliers, et je pense à la réa, la réanimation des nouveau-nés, etc., ils sont quand même très limités par le tarif des formations. Donc s'ils ne font pas intervenir l'industrie...
Alors c'est... ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le partenariat avec l'industrie apporte à la qualité de la formation, c'est faisable. Ça peut même être un partenariat avec marqué 0 francs, enfin 0 euros. Donc ça, c'est tolérable. Par contre, ce que vous dites, c'est évident. J'ai posé ces questions il y a un an à l'agence. On a créé un groupe pour l'évolution sur la simulation des tarifs différents. Malheureusement, le directeur du service informatique est parti, que celui qui avait un peu l'esprit numérique à l'agence est parti aussi. Et donc je me retrouve tout seul. Mais théoriquement, on avait discuté de forfaits majorés pour la création de la simulation et peut-être de forfaits dégradés pour l'utilisation ultérieure. Parce qu'une fois qu'on a créé, on peut le renouveler et ça ne coûte pas très cher finalement. On loue moins de salles, enfin, il y a moins de frais. Donc la réflexion, elle est entamée. Mais est-ce qu'on a les moyens d'y répondre? Et là encore une fois, si vous écrivez tout ça, si vous nous poussez, si vous envoyez ça à l'agence actuellement... Je sais que Michel est en train de faire son rapport de fin de mandat et qu'elle a tout intérêt à faire des propositions, je parle pour sa carrière, hein, je suis carrément ironique, mais elle a tout intérêt à faire des propositions qui collent à la réalité scientifique de ses missions et un peu moins à la réalité administrative. Et là, elle est perméable. Hein, enfin, on sent que tout ce qui se passe avec le piratage de ce week-end, ou quand même dès lundi, elle a fermé la plateforme. Dès hier après-midi, elle a supprimé le bouton exporter sur le site de l'agence. C'est-à-dire que les organismes agréés ne peuvent plus sortir de données du site de l'agence. Ce qui est extrêmement compliqué parce que je ne vois pas comment ils vont travailler. Il faut qu'ils recopient tout à la main. Donc là, elle est passée dans l'excès inverse. On va recevoir théoriquement un mail dans la journée. Mais hier soir, elle a supprimé le bouton et ils ont verrouillé. Donc il y avait quand même un bug sur le site de l'agence, à mon avis. Donc là, ça tombe très mal. On a eu un article dans le Canard enchaîné sur un directeur d'organisme agréé dépendant des centrales syndicales à un moment qui est en tôle pour détournement de fonds, je ne sais plus comment. Enfin, bon. Donc l'organisme a été fermé. Le type là de ce week-end, c'est pareil, c'est porté plainte au procureur de la République. Mais pour deux chopés, il y en a 40 qui continuent à sourire.
Pour essayer de rassurer Claire et revenir sur l'histoire de du switch, enfin, du passage DU-DPC, il y a un outil qui est peut-être ce qu'on appelle pour en savoir plus. C'est-à-dire que vous avez un tronc commun qui est le côté très pratique, et puis un approfondissement qui, lui, va rentrer dans le DU. Par exemple, de la physiopathe qui n'est pas nécessairement à détailler dans une action de DPC. Ça peut être un exemple.
Ça fait partie des priorités nationales. Hein.
Oui, en plus, il faut que ça rentre de...
Pour comprendre un peu de physiopathe.
Non, mais souvent, c'est intégré à l'enseignement. Là, nous, la physiopathe des rétinopathies diabétiques, elle est très bien passée dans les trois jours. C'est juste que... Enfin, voilà, je pense qu'effectivement, si on arrive en fin de période triennale et qu'il y a des choses à changer, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse des propositions. Et est-ce que l'ANDPC est entrée en contact avec les universités, les présidents d'universités, les doyens essentiellement de médecine?
Je ne représente pas l'agence, hein, je ne suis que la CSI.
C'est une question.
Je n'ai pas de réponse. La position de Michel, que je connais bien, j'ai une réunion la semaine prochaine avec elle et avec les centrales syndicales. C'est quand même un côté, elle a ce côté, je fais tout toute seule. Donc c'est difficile de savoir. Là, on sent qu'elle est à bout et qu'elle a compris qu'elle pouvait avoir confiance en nous. Donc moi, je fonctionne beaucoup sur le contrat de confiance. Je pense que les règles, c'est les règles, mais que derrière, il y a des individus. On a des valeurs communes. Elle comprend qu'elle peut nous faire confiance. Elle est en train d'accepter un certain nombre de choses. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait au niveau du ministère? Est-ce qu'elle est en bon terme? Je suis quand même intervenu au niveau de Raymond Lemoigne à la fin d'une discussion, enfin d'une réunion avec Agnès Buzyn. Raymond Lemoigne, il ne plaisante pas. Quand il m'a dit quelles sont vos propositions, je lui ai dit, monsieur, il faut rééquilibrer l'administratif et le médical. Une heure après, Olivier avait un coup de téléphone du plus haut. Donc ça a fait trembler un petit peu les lignes. Donc je pense qu'en ce moment, vous pouvez faire passer les choses. Mais nous, moi, je ne suis pas crédible. C'est-à-dire que moi, je constate, donc c'est vous qui devez râler en disant, voilà, trop c'est trop, l'université, c'est pas McDonald's ou Citroën en formation médicale, parce qu'eux, ils peuvent être formation médicale. Hein. J'ai des firmes d'audioprothèses actuellement qui sont passées organismes agréés et qui forment les généralistes ou les ORL à prescrire des appareils auditifs. Et en général, c'est au Baléares, au Maroc, enfin bon. Donc je pense que ça, elle a conscience de ses dérives et que les vraies valeurs, on va les faire passer en priorité. Parce que je pense que si les universités sont contentes de faire du DPC, ça valorisera sa carrière et le statut de l'agence. Donc je pense qu'il y a, comme toute chose, de la politique derrière. Mais ceci dit, prenez le diaporama et appliquez-le. Et s'il y a des soucis, vous téléphonez et on voit, nous, comment on peut améliorer les choses. Quand on vous met défavorable en évaluation, c'est pas qu'on est défavorable, c'est que c'est le seul moyen qu'on a pour que vous teniez compte de nos observations. Si on met favorable avec recommandation, on sait très bien que nos recommandations ne servent à rien.
Donc je viens de jeter un coup d'œil à la liste des objectifs nationaux là, qui vont se terminer en 2018. Comment va être définie la nouvelle liste?
Là, on est parti pour la journée. L'annexe 1 vient d'être...
Je vois, il y a des sujets effectivement d'intérêt majeur, hein, c'est très clair, mais il y a peut-être aussi des maladies chroniques fréquentes qui ne sont absolument pas prises en compte, qui sont très mal traitées en soins primaires, et je pense qu'il y a du boulot.
Alors l'annexe 1 qui vient d'être publiée par le ministère est remarquable. Hein. Donc là, elle est extrêmement complète. Elle est à la fois fournie par l'HAS, par la DSS, par la DGOS. Donc ça, on peut vous la diffuser, elle n'est pas secrète. Mais à partir de cette annexe 1, qui doit correspondre 48 items ou je ne sais pas quoi, y compris la télémédecine, ouais, 44, y compris la télémédecine, on doit par spécialité, avant le 30 mars, définir les orientations qui nous concernent. Qu'est-ce que ça cache? On n'en sait rien. Il faut qu'on définisse les orientations, qu'on les justifie. Donc il y a une fiche à répondre. C'est pas comme avant. Avant, on disait pertinence des examens complémentaires en ORL, par exemple. Mais on écrivait ça, ça passe. Maintenant, si je mets ça, il va falloir que je dise pourquoi, comment je vais le faire, quels sont mes objectifs, quels sont les problèmes que j'ai constatés et tout. Est-ce que l'annexe 1 et l'annexe 2... est-ce que l'annexe 1 et le cadre général et l'annexe 2 précisent par spécialité un focus? Donc c'est une contractualisation de l'annexe 1. Est-ce que ça sera un piège réduisant nos capacités de formation sur les périodes de 3 ans? On n'en sait rien. Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler là-dessus, mais grosso modo, on rend notre copie le 30 mars. Que je sache, c'est la semaine prochaine. Mais on peut vous envoyer l'annexe 1.
Ah oui, c'est vrai. Oui, l'annexe 1, elle est publique. Pour ce qui est de l'annexe 2, on a à définir au maximum 3 orientations prioritaires pour chaque spécialité. Donc ça, c'est un travail qui est en cours au sein de chaque spécialité. Et le CNP de Rhumato est en train d'y travailler et remettra sa copie avant le 31 mars.
Après, on peut valider, même si on n'est pas dans les axes prioritaires, hein, nous, on l'a fait. Et il suffit, enfin, faut un petit peu slalomer dans les non-prioritaires, mais on peut. Hein. Parce qu'après, il y a des axes par discipline. Hein.
Non, c'est ça qu'il faut qu'on remplisse pour les trois années à venir.
Et ensuite, pour répondre à Frédéric sur le refus, en fait, les refus de DPC, en tout cas de ce que moi j'en ai vécu, c'est avant tout administratif. C'est-à-dire que si on n'est pas, même si nous, moi j'ai déposé une formation qualifiante pour la ponction lombaire, puisqu'elle est un peu pratiquée, on va dire, de façon variable en France, et j'avais mis dans cette formation le public gériatre, puisqu'ils sont amenés à en faire de plus en plus, et c'est l'une des spécialités qui pose un peu problème sur cet acte. Et en fait, c'est ce public-là qui m'a été refusé en disant que ce n'était pas leur priorité. Donc ce qui peut nous paraître comme du bon sens médical, si on ne suit pas les recommandations avec les délimitations qui ont été proposées, eh bien, de toute façon, on est refusé.
Ce que je pense, c'est que Comme la CSI siège une fois par mois, qu'elle traite 87 actions, enfin nous on s'amuse, hein, on tue les mouches là. L'administration tente par tous les moyens de compenser l'incapacité de la CSI médicale à évaluer les actions. Donc elle empiète la zone frontière entre l'administratif et le médical, elle le rogne au maximum en s'appropriant la justification du public cible ou de la méthode. Et il y a des endroits où elle se prend les pieds dans le tapis. Donc j'ai eu les cardiologues, c'était avec Jean-Marc Davy, donc il a pété les plombs, et donc je lui ai dit, bah, tu viens, il a pris l'avion, il est monté à Paris, dans la journée, tous ces dossiers sont passés. Donc si vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas, mais avertissez-nous, parce que nous, on s'aperçoit qu'assez facilement, c'est pas qu'on est vendu ou acheté ou quoi que ce soit, assez facilement, elle nous écoute, et ça passe. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand je vous parle de ça, je m'aperçois qu'elle est très, très, très seule à évaluer des actions. Et c'est ce que je lui dis, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc vous, si vous avez des problèmes, avertissez-nous et vous verrez qu'on y arrivera. Mais on a aussi besoin que vous vous investissiez pour montrer ce que c'est que la vraie formation et pour filiariser la formation initiale et la formation continue. On doit vraiment ne pas faire de différence entre les deux.
Alors, juste une ou deux dernières questions avant qu'on finisse cet atelier ou un commentaire de Philippe.
Non, c'est des questions, autant répondre aux questions.
Bonjour. D'un point de vue pratique, quel est le délai entre le dépôt et la validation d'un DPC?
Le délai originellement était de 72 heures. Donc on a eu une période euphorique où on se demandait comment ils faisaient pour évaluer tout ça en 72 heures. En fait, ils n'évaluaient pas, ils laissaient passer. Et puis d'un seul coup, ils ont fermé le robinet en disant c'est 15 jours. Et il s'est passé alors un effet que j'appelle moi lâcher de barrage. C'est-à-dire que comme c'est un budget annuel, ça s'arrête au 31 décembre et ça redémarre le 1er janvier. Donc on a arrêté, on a fait faillite vers le 15 novembre, il n'y avait plus d'argent, donc on a arrêté au 15 novembre, et elle a ouvert les inscriptions pour le 1er janvier à partir du 10 décembre ou 15 décembre. Là-dessus, il y a eu démission du service informatique, plantage du service informatique, et puis l'effet lâcher de barrage où tout le monde s'est dit on va s'inscrire pour l'année 2019 parce qu'il n'y aura peut-être pas d'argent à partir du mois de mai. Donc tous les organismes professionnels se sont jetés sur l'agence. Donc elle voyait le compteur tourner avec 3000 actions par jour, enfin des trucs complètement surréalistes, et donc ils n'ont pas pu tenir le délai. Et comme nous, derrière, en CSI, une action à 15 jours pour répondre, comme elle avait beaucoup de retard, que nous on en avait encore plus, les premières CSI du mois de janvier, on les a annulées parce qu'on n'avait rien à contrôler, puisque le système n'était pas opérationnel. Donc là, il est décidé pour 2019... qu'elle arrêtera les actions fin septembre et qu'au 1er octobre, on démarrera pour... Enfin, elle arrêtera les déclarations pour l'année en cours fin septembre et à partir du 1er octobre, on commencera à pouvoir enregistrer les actions pour 2020.
D'accord.
Donc on ne devrait pas avoir ce blocage. Mais actuellement, le délai, il est surréaliste. Moi-même, pour les ORL, je suis intervenu puisqu'on avait un congrès fin janvier à Nice. il y avait je ne sais pas combien de DPC, donc on m'a téléphoné, on m'a dit qu'est-ce que tu fais dans cette usine, tu pourrais au moins nous servir. Donc j'ai pris le téléphone, je les ai appelés et on a débloqué. Pour Jean-Marc Davy, c'était pareil, les cardiologues avaient un congrès 4 jours plus tard. Il y a quand même de l'argent en jeu, on retient des selles, on prévoit, il y a des gens qui prévoient des déplacements. Et l'agence répond actuellement 8 à 10 jours avant la réalité de la période où vous faites l'action. Alors il y a une chose que j'ai dans la tête que je ne peux pas vous dire, mais je vous dis quand même, c'est que mettez la date de la première session tout de suite, enfin 15 jours plus tard, comme ça ils vont passer en priorité. Si vous mettez que votre première session est au mois d'avril, mai, ils vont mettre ça sous la pile, il y en a qui passent avant. Et donc je pense que la date de la première session, il faut la marquer assez rapide de façon à mettre la pression sur l'agence. Mais c'est pas honnête. Enfin, c'est pas honnête.
C'est de bonne guerre. Hein.
J'ai une question. Vous avez dit que vous allez certainement fermer la plateforme fin septembre pour l'année 2019.
Oui.
Clairement, vous allez planter beaucoup de DU ou DIU. Enfin, nous, en tout cas, pour avoir les programmes en temps et en heure et pouvoir les déposer auprès de l'Agence nationale du DPC, en septembre, c'est là qu'on commence à s'activer pour la fin de l'année.
Bah, c'est important de le savoir, parce que ça, c'est important que vous nous le disiez, parce que ça, on n'en a pas conscience. Donc on doit pouvoir s'arranger pour avoir une dérogation ou une case spéciale pour ça. Hein. C'est possible. Nous, dans le monde libéral, entre guillemets, on sait qu'au mois de janvier, à la limite, il faut déclarer tout pour l'année, de façon à ce qu'on soit sûr qu'il y a du financement. Parce que si c'est déclaré et publié sur le site de l'agence, même s'il n'y a pas d'inscrit, c'est considéré comme financé. Donc ça se retire de la cagnotte globale. Par contre, effectivement, si vous ne pouvez pas anticiper sur le quatrième trimestre, il faut qu'il y ait une dérogation là aussi pour l'université. Oui, ouais, ouais. Ouais, mais ça, on n'en a pas conscience, donc c'est intéressant.
Oui. Vous dites que
oui,
ça
l'année se commence en
2019. Oui, c'est vrai, oui. Mais de toute façon, moi, je milite pour qu'il n'y ait pas la coupure. Enfin, ça devrait être en flot continu. C'est complètement.
Quand vous dites que ça se retire de la cagnotte, vous faites une action, vous envisagez une action de DPC avec 50 participants. Ça génère 50 fois 900.
Oui, oui.
Qu'il n'y en ait que 20 présents.
Non.
C'est au présent.
Qu'ils ne soient pas présents.
C'est aux têtes de pipe.
Alors, c'est réadapté.
Inscrit, présent ou inscrit?
C'est la signature, mais là encore, la signature, on peut en parler. Hein, donc, voilà.
Oui, merci. Je voulais revenir sur l'histoire d'enregistrement entre septembre et janvier, parce que j'ai assisté déjà à une réunion avec Madame Serfati, où les universités, enfin, je pense que c'était dans le cadre de DPCU ou bien alors de l'AFCU. On lui avait dit les universités pour qu'on puisse enregistrer les DU il faudrait que le site permette l'enregistrement pour l'année suivante à partir du mois de septembre, puisque parfois on a des formations qui sont sur les deux années, celle de septembre et janvier, et elle avait répondu non, ça ne sera jamais possible. Je me souviens très bien de la réponse. Ça ne sera jamais possible parce que les budgets sont annuels et il faut que la formation ait lieu sur l'année civile. Voilà. Donc moi, oui. Je trouvais bien qu'on puisse ouvrir le site en septembre pour l'année suivante, mais tout en pouvant conserver aussi l'année en cours.
Je crois qu'il faudrait les deux possibilités. Il faut distinguer la déclaration et le règlement financier. Donc elle peut faire une anticipation sur l'année d'après, qui sera budgétisée au cours de l'année, parce qu'on a quand même de l'argent en début d'année. Donc, mais le paiement, ce n'est pas la même chose. Le paiement, c'est quand la démarche est terminée, quand tous les inscrits ont participé à l'intégralité du programme. À ce moment-là, il faut que l'organisme fasse les factures, que la TVA conforme au règlement européen. Enfin bon, il y a tout un délai avant de payer. Donc quand elle inscrit, elle retire l'argent virtuellement de sa cagnotte de façon à savoir où elle va. Mais je pense que dans votre cas, on peut répartir sur 2 ans. Le financement se fera annuellement de toute façon. Mais l'enveloppe se trouve neutralisée pour l'année d'après sur le montant qui était déclaré. Mais je suis sûr que là, on doit pouvoir faire passer, puisque là, on est en fin d'année, et je vous dis, en fin de système. Donc, il faut le faire évoluer, ça va, sinon ça va exploser.
Juste un tout petit mot de commentaire, parce qu'on a beaucoup parlé DU, DIU, et bon, c'était le sujet, et c'est important parce que c'est une composante importante du savoir de nos universités, de la transmission de nos savoirs. Mais il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que ça qui peut faire l'objet d'actions de DPC proposées par l'université. Je pense par exemple que dans toutes nos universités et écoles de médecine, nous avons un département de médecine générale, et que des DPC sur l'interaction en termes de soins primaires entre les généralistes et les spécialistes sur telle ou telle pathologie importante peut être extrêmement utile. Et certainement faire l'objet d'actions de DPC. Nous travaillons tous aussi à l'hôpital. À l'hôpital, nous avons aussi des actions qui font partie des méthodes de DPC de la HAS. Les RCP, les RMM, les CREX, tout ceci sont des méthodes qui peuvent donner lieu à des actions de DPC et qui peuvent être promues aussi par non seulement l'hôpital, mais l'université. Donc le champ est beaucoup plus large que simplement les DU et DIU, avec voilà, des aspects, des difficultés techniques pour l'instant qu'on peut comprendre et dont on espère qu'elles pourront évoluer et se résoudre. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que de toutes ces autres perspectives possibles peuvent aussi naître des actions qui renforcent la place de l'université et des hôpitaux aussi dans le dispositif.